Chapitre 3 Salammbô. La lune se levait au ras des flots, et sur la ville encore couverte de ténèbres, des points lumineux, des blancheurs brillaient. Le timon d'un char dans une cour, quelques haillons de toile suspendus, l'ongle d'un mur, un collier d'or à la poitrine d'un dieu. Les boules de verre sur les toits des temples rayonnaient çà et là comme de gros diamants. Mais de vagues ruines, des tas de terre noire, des jardins faisaient des masses plus sombres dans l'obscurité, et au bas de Malka, des filets de pêcheurs s'étendaient d'une maison à l'autre comme de gigantesques chauves-souris déployant leurs ailes. On n'entendait plus le grincement des roues hydrauliques qui apportaient l'eau au dernier étage des palais. Et au milieu des terrasses, les chameaux reposaient tranquillement, couchés sur le ventre à la manière des autruches. Les portiers dormaient dans les rues contre le seuil des maisons. L'ombre des colosses s'allongeait sur les places désertes. Au loin, quelquefois, la fumée d'un sacrifice brûlant encore s'échappait par les tuiles de bronze, et la brise lourde apportait avec des parfums d'aromates les senteurs de la marine et l'exhalation des murailles chauvées par le soleil. Autour de Carthage, les ondes immobiles resplendissaient, car la lune étalait sa lueur tout à la fois sur le golfe environné de montagnes et sur le lac de Tunis, où des phénicoptères parmi les bancs de sable formaient de longues lignes roses, tandis qu'au-delà, sous les catacombes, la grande lagune salée miroitait comme un morceau d'argent. La voûte du ciel bleu s'enfonçait à l'horizon, d'un côté dans le poudroiement des plaines, de l'autre dans les brumes de la mer, et sur le sommet de l'acropole, les cyprès pyramidaux bordant le temple d'Eshmoun se balançaient et faisaient un murmure comme les flots réguliers qui battaient lentement le long du môle au bas des remparts. Salammbô monta sur la terrasse de son palais, soutenu par une esclave qui portait dans un plat de fer des charbons enflammés. Il y avait au milieu de la terrasse un petit livre d'ivoire, couvert de peaux de lynx avec des coussins en plumes de perroquet, animal fatidique consacré aux dieux, et dans les quatre coins s'élevaient quatre longues cassolettes remplies de nard, d'encens, de cinnamome et de myrrhe. L'esclave alluma les parfums. Salammbô regarda l'étoile polaire. Elle salua lentement les quatre points du ciel et s'agenouilla sur le sol parmi la poudre d'azur qui était semé d'étoiles d'or à l'imitation du firmament. Puis les deux coudes contre les flancs, les avant-bras tout droits et les mains ouvertes, en se reversant la tête sous les rayons de la lune, elle dit « Oh, Rabetna, Mahalet, Tanit !» Et sa voix se traînait d'une façon plaintive, comme pour appeler quelqu'un. Analtis, Astarte, Derceto, Astoret, Milita, Atara, Elissa, Tirata. Par les symboles cachés, par les sistres résonnants, par les sillons de la terre, par l'éternel silence et par l'éternelle fécondité, dominatrice de la mer ténébreuse et des plages azurées, ô reine des choses humides, salut !» Elle se balança tout le corps deux ou trois fois, puis se jeta le front dans la poussière, les bras allongés. Son esclave la releva lentement, car il fallait, d'après les rites, que quelqu'un vint arracher le suppliant à sa prosternation. C'était lui dire que les yeux l'agréaient et la nourrice de Salammbô ne manquait jamais à ce devoir de piété. Des marchands de la Gétulie d'Aritienne l'avaient toute petite apportée à Carthage et après son affranchissement, elle n'avait pas voulu abandonner ses maîtres, comme le prouvait son oreille droite percée d'un large trou. Un jupon à raies multicolores, en lui serrant les hanches, descendait sur ses chevilles, où s'entrechoquaient deux cercles d'étain. Sa figure, un peu plate, était jaune comme sa tunique. Des aiguilles d'argent très longues faisaient un soleil derrière sa tête. Elle portait sur la narine un bouton de corail, et elle se tenait auprès du lit, plus droite qu'un Hermès, et les paupières baissées. Salammbô s'avança jusqu'au bord de la terrasse. Ses yeux, un instant, parcoururent l'horizon, puis ils s'abaissèrent sur la ville endormie, et le soupir qu'elle poussa en lui soulevant les seins fit onduler d'un bout à l'autre la longue simarre blanche qui pendait autour d'elle sans agrafe ni ceinture. Ses sandales à pointes recourbées disparaissaient sous un amas d'émeraudes, et ses cheveux à l'abandon emplissaient un réseau en fils de pourpre. Mais elle releva la tête pour contempler la lune, et mêlant à ses paroles des fragments d'hymne, elle murmura « Que tu tournes légèrement, soutenu par l'éther impalpable. Il se polit autour de toi, et c'est le mouvement de ton agitation qui distribue les vents et les rosées fécondes. Selon que tu crois et décrois, s'allongent ou se rapetissent les yeux des chats et les taches des panthères. Les épouses hurlent ton nom dans la douleur des enfantements. Tu gonfles le coquillage, tu fais bouillonner les vins, tu putréfies les cadavres, tu formes les perles au fond de la mer. Et tous les germes, ô déesse, fermentent dans les obscures profondeurs de ton humidité. Quand tu parais, il s'épand une quiétude sur la terre. Les fleurs se forment, les flots s'apaisent, les hommes fatigués s'étendent la poitrine vers toi, et le monde, avec ses océans et ses montagnes, comme un miroir, se regarde dans ta figure. Tu es blanche, douce, lumineuse, immaculée, auxiliatrice, purifiante, sereine. Le croissant de la lune était alors sur la montagne des eaux chaudes, dans l'échancrure de ses deux sommets de l'autre côté du golfe. Il y avait en dessous une petite étoile et tout autour un cercle pâle. Salammbô reprit « Mais tu es terrible, maîtresse. C'est par toi que se produisent les monstres, les fantômes effrayants, les songes menteurs. Tes yeux dévorent les pierres des édifices, et les singes sont malades toutes les fois que tu rajeunis. Où donc vas-tu? Pourquoi changer tes formes perpétuellement? Tantôt mince et recourbée, tu glisses dans les espaces comme une galère sans mâture, ou bien au milieu des étoiles, tu ressembles à un pasteur qui garde son troupeau. Luisante et ronde, tu frôles la cime des monts, comme la roue d'un char. Ô Tanit, tu m'aimes, n'est-ce pas? Je t'ai tant regardé. Mais non, tu cours dans ton azur, et moi je reste sur la terre immobile. Tanarch, prends ton ébal et joue tout bas sur la corde d'argent, car mon cœur est triste. » L'esclave souleva une sorte de harpe en bois d'ébène, plus haute qu'elle, et triangulaire comme un delta. Elle en fixa la pointe dans un globe de cristal, et des deux bras se mit à jouer. Les sons se succédaient, sourds et précipités comme un bourdonnement d'abeilles, et de plus en plus sonores, ils s'envolaient dans la nuit avec la plainte des flots et le frémissement des grands arbres au sommet de l'acropole. « Tais-toi !» s'écria Salammbô. « Qu'as-tu donc, maîtresse? La brise qui souffle, un nuage qui passe, tout à présent t'inquiète et t'agite. »« Je le sais, » dit-elle. Tu te fatigues à des prières trop longues. Ô Tanakh, je voudrais m'y dissoudre comme une fleur dans du vin. C'est peut-être la fumée de tes parfums. Non, dit Salammbô. L'esprit des dieux habite dans les bonnes odeurs. Alors l'esclave lui parla de son père. On le croyait parti vers la contrée de l'ambre derrière les colonnes de Melkarth. Mais s'il ne revient pas, disait-elle, il te faudra pourtant, puisque c'était sa volonté, choisir un époux parmi les fils des anciens, et alors ton chagrin s'en ira dans les bras d'un homme. Pourquoi ? Demanda la jeune fille. Tout ce qu'elle avait aperçu lui faisait horreur avec leur rire de bête fauve et leurs membres grossiers. Quelquefois, Tanakh, il s'exhale du fond de mon être comme de chaudes bouffées plus lourdes que les vapeurs d'un volcan. Des voix m'appellent, un globe de feu roule et monte dans ma poitrine. Il m'étouffe, je vais mourir. Et puis, quelque chose de suave, coulant de mon front jusqu'à mes pieds, passe dans ma chair. C'est une caresse qui m'enveloppe, et je me sens écrasé, comme si un dieu s'étendait sur moi. Oh, je voudrais me perdre dans la brume des nuits, dans le flot des fontaines, dans la sève des arbres, sortir de mon corps, n'être qu'un souffle, qu'un rayon, et glisser, monter jusqu'à toi, ô mer. Elle leva ses bras le plus haut possible, en se cambrant la taille, pâle et légère comme la lune avec son long vêtement. Puis elle retomba sur la couche d'ivoire haletante. Mais Tanakh lui passa autour du cou un collier d'ambre avec des dents de dauphin pour bannir les terreurs et Salammbô dit d'une voix presque éteinte « Va me chercher, Shababarim. » Son père n'avait pas voulu qu'elle entrât dans le collège des prêtresses, ni même qu'on lui fît rien connaître de la Tanit populaire. Il la réservait pour quelque alliance pouvant servir sa politique, si bien que Salammbô vivait seule au milieu de ce palais. Sa mère, depuis longtemps, était morte. Elle avait grandi dans les abstinences, les jeûnes et les purifications, toujours entourée de choses exquises et graves, le corps saturé de parfums, l'âme pleine de prières. Jamais elle n'avait goûté de vin, ni mangé de viande, ni touché à une bête immonde, ni posé ses talons dans la maison d'un mort. Elle ignorait les simulacres obscènes, car chaque dieu se manifestant par des formes différentes, des cultes souvent contradictoires, témoignaient à la fois du même principe et Salammbô adorait la déesse en sa figuration sidérale. Une influence était descendue de la lune sur la Vierge. Quand l'astre allait en diminuant, Salammbô s'affaiblissait. Languissante toute la journée, elle se ranimait le soir. Pendant une éclipse, elle avait manqué mourir. Mais la rabbette jalouse se vengeait de cette virginité soustraite à ses sacrifices, et elle tourmentait Salammbô d'obsessions d'autant plus fortes qu'elles étaient vagues, épandues dans cette croyance et avivées par elle. Sans cesse, la fille d'Amilcar s'inquiétait de Tanit. Elle avait appris ses aventures, ses voyages et tous ses noms qu'elle répétait sans qu'ils eussent pour elle de signification distincte. Afin de pénétrer dans les profondeurs de son dogme, elle voulait connaître, au plus secret du temple, la vieille idole avec le manteau magnifique d'où dépendaient les destinées de Carthage, car l'idée d'un dieu ne se dégageait pas nettement de sa représentation, et tenir ou même voir son simulacre, c'était lui prendre une part de sa vertu et en quelque sorte le dominer. Salammbô se détourna. Elle avait reconnu le bruit des clochettes d'or que Shabarim portait au bas de son vêtement. Il monta les escaliers, puis dès le seuil de la terrasse, il s'arrêta en croisant les bras. Ses yeux enfoncés brillaient comme les lampes d'un sépulcre. Son long corps maigre flottait dans sa robe de lin, alourdi par les grelots qui s'alternaient sur ses talons avec des pommes d'émeraude. Il avait les membres débiles, le crâne oblique, le menton pointu. Sa peau semblait froide à toucher, et sa face jaune, que des rides profondes labouraient, comme contractée dans un désir, un chagrin éternel. C'était le grand prêtre de Tanit, celui qui avait élevé Salammbô. « Parle, dit-il, que veux-tu ? »
« J'espérais, tu m'avais presque promis. »
Elle balbutia, elle se troubla, puis tout à coup.
« Pourquoi me méprises-tu ? Qu'ai-je donc oublié dans les rites ? Tu es mon maître et tu m'as dit que personne comme moi ne s'entendait aux choses de la déesse. Mais il n'y en a que tu ne veux pas me dire. Est-ce vrai, ô père ?»
Shahabarim se rappela les ordres d'Abilkar. Il répondit « Non, je n'ai plus rien à t'apprendre. »
« Un génie, reprit-elle, me pousse à cet amour. J'ai gravi les marches d'Eshmoun, dieu des planètes et des intelligences. J'ai dormi sous l'olivier d'or de Melkart, patron des colonies tyriennes. J'ai poussé les portes Baal-Kamon, éclaireur et fertilisateur. J'ai sacrifié au Kabir souterrain, au dieu des bois, des vents, des fleuves et des montagnes. Mais tous, ils sont trop loin, trop hauts, trop insensibles, comprends-tu ? Tandis qu'elle, je la sens mêlée à ma vie, elle emplit mon âme, et je tressaille à des élancements intérieurs, comme si elle bondissait pour s'échapper. Il me semble que je vais entendre sa voix, apercevoir sa figure. Des éclairs m'éblouissent, puis je retombe dans les ténèbres.
Shahabarim se taisait. Elle le sollicitait de son regard suppliant. Enfin, il fit signe d'écarter l'esclave qui n'était pas de race cananéenne. Tanag disparut et Shahabarim, levant un bras dans l'air, commença. Avant les dieux, les ténèbres étaient seules. Et un souffle flottait, lourd et indistinct, comme la conscience d'un homme dans un rêve. Il se contracta, créant le désir et la nue, et du désir et de la nue sortit la matière primitive. C'était une eau bourbeuse, noire, glacée, profonde. Elle enfermait les monstres insensibles, parties incohérentes des formes à naître et qui sont peintes sur la paroi des sanctuaires. Puis la matière se condensa. Elle devint un œuf. Il se rompit. Une moitié forma la terre, l'autre le firmament. Le soleil, la lune, les vents, les nuages parurent. Et au fracas de la foudre, les animaux intelligents s'éveillèrent. Alors Eshmoun se déroula dans la sphère étoilée. Kamon rayonna dans le soleil. Melkart, avec ses bras, le poussa derrière Gadès. Les Kabirim descendirent sous les volcans, et Rabetna, telle qu'une nourrice, se pencha sur le monde, versant sa lumière comme un lait et sa nuit comme un manteau. Et après, dit-elle. Il lui avait conté le secret des origines pour la distraire par des perspectives plus hautes. Mais le désir de la Vierge se ralluma sous ses dernières paroles, et Shahabarim, cédant à moitié,
reprit. Elle inspire et gouverne les amours des hommes. Les amours des hommes, répéta Salammbô rêvant.
Elle est l'âme de Carthage, continua le prêtre. Et bien qu'elle soit partout épandue, c'est ici qu'elle demeure, sous le voile sacré.
Ô père, s'écria Salammbô, je la verrai, n'est-ce pas? Tu m'y conduiras. Depuis longtemps j'hésitais, mais la curiosité de sa forme me dévore. Pitié, secours-moi, partons.
Il la repoussa d'un geste véhément et plein d'orgueil.
Jamais! Ne sais-tu pas qu'on en meurt? Les Baals et Hermaphrodites ne se dévoilent que pour nous seuls, hommes par l'esprit, femmes par la faiblesse. Ton désir est un sacrilège. Satisfais-toi avec la science que tu possèdes.
Elle tomba sur les genoux, mettant ses deux doigts contre ses oreilles en signe de repentir.
Et elle sanglotait, écrasée par la parole du prêtre, pleine à la fois de colère contre lui, de terreur et d'humiliation.
Shahabarim, debout, restait plus insensible que les pierres de la terrasse. Il la regardait de haut en bas, frémissant à ses pieds.
Il éprouvait une sorte de joie en la voyant souffrir pour sa divinité, qu'il ne pouvait lui non plus éteindre tout entière. Déjà les oiseaux chantaient, un vent froid soufflait, de petits nuages couraient dans le ciel plus pâle. Tout à coup, il aperçut à l'horizon derrière Tunis comme des brouillards légers qui se traînaient contre le sol. Puis ce fut un grand rideau de poudre grise perpendiculairement étalé, et dans les tourbillons de cette masse nombreuse, des têtes de dromadaires, des lances, des boucliers parurent. C'était l'armée des barbares qui s'avançait sur Carthage.
Chapitre 4. Sous les murs de Carthage. Des gens de la campagne montaient sur des ânes ou courant à pied, pâles et soufflés, fous de peur, arrivèrent dans la ville. Ils fuyaient devant l'armée. En 3 jours, elle avait fait le chemin de Sicca pour venir à Carthage et tout exterminer. On ferma les portes. Les barbares presque aussitôt parurent. Mais ils s'arrêtèrent au milieu de l'isthme sur le bord du lac. D'abord, ils n'annoncèrent rien d'hostile. Plusieurs s'approchèrent avec des palmes à la main. Ils furent repoussés à coups de flèche tant la terreur était grande. Le matin et à la tombée du jour, des rôdeurs quelquefois erraient le long des murs. On remarquait surtout un petit homme enveloppé soigneusement d'un manteau et dont la figure disparaissait sous une visière très basse. Il restait pendant de grandes heures à regarder l'aqueduc, et avec une telle persistance qu'il voulait sans doute égarer les Carthaginois sur ses véritables desseins. Un autre homme l'accompagnait, une sorte de géant qui marchait tête nue. Mais Carthage était défendue dans toute la largeur de l'isthme, d'abord par un fossé, ensuite par un rempart de gazon, et enfin par un mur haut de 30 coudées en pierre de taille et à double étage. Il contenait des écuries pour 300 éléphants, avec des magasins pour leurs caparaçons, leurs entraves et leur nourriture, puis d'autres écuries pour 4000 chevaux, avec les provisions d'orge et les harnachements, et des casernes pour 20 000 soldats, avec les armures et tout le matériel de guerre. Des tours s'élevaient sur le second étage, toutes garnies de créneaux et qui portaient en dehors des boucliers de bronze, suspendus à des crépompons. Cette première ligne de murailles abritait immédiatement Malka, le quartier des gens de la marine et des teinturiers. On apercevait des mâts où séchaient des voiles de pourpre et sur les dernières terrasses des fourneaux d'argile pour cuire la saumure. Par derrière, la ville étageait en amphithéâtre ses hautes maisons de forme cubique. Elles étaient en pierre, en planche, en galets, en roseaux, en coquillages, en terre battue. Les bois des temples faisaient comme des lacs de verdure dans cette montagne de blocs diversement coloriés. Les places publiques la nivelaient à des distances inégales. D'innombrables ruelles s'entrecroisant la coupaient du haut en bas. On distinguait les enceintes des trois vieux quartiers maintenant confondues. Elles se levaient, çà et là, comme de grands écueils, ou allongeaient des pans énormes, à demi couverts de fleurs, noircis, largement rayés par le jet des immondices, et des rues passaient dans leurs ouvertures béantes comme des fleuves sous des ponts. La colline de l'Acropole, au centre de Byrsa, disparaissait sous un désordre de monuments. C'étaient des temples à colonnes torses avec des chapiteaux de bronze et des chaînes de métal, des cônes en pierre sèche à bandes d'azur, des coupoles de cuivre, des architraves de marbre, des contreforts babyloniens, des obélisques posant sur leurs pointes comme des flambeaux reversés. Les péristyles atteignaient au fronton, les volutes se déroulaient entre les colonnades, des murailles de granit supportaient des cloisons de tuiles, et tout cela montait l'un sur l'autre en se cachant à demi d'une façon merveilleuse et incompréhensible. On y sentait la succession des âges et comme des souvenirs de patries oubliées. Derrière l'acropole, dans des terrains rouges, le chemin des Mappales, bordé de tombeaux, s'allongeait en ligne droite du rivage aux catacombes. De larges habitations s'espaçaient ensuite dans des jardins, et ce troisième quartier, Mégara à la ville neuve, allait jusqu'au bord de la falaise où se dressait un phare géant qui flambait toutes les nuits. Carthage se déployait ainsi devant les soldats établis dans la plaine. De loin, ils reconnaissaient les marchés, les carrefours. Ils se disputaient sur l'emplacement des temples. Celui de Camon, en face des Sissites, avait des tuiles d'or. Mélicarte, à la gauche d'Eskmoun, portait sur sa toiture des branches de corail. Tanit, au-delà, arrondissait dans les palmiers sa coupole de cuivre. Le noir Moloch était au bas des citernes du côté du phare. L'on voyait, à l'angle des frontons, sur le sommet des murs, au coin des places, partout, des divinités à tête hideuse, colossales ou trapues, avec des ventres énormes ou démesurément aplatis, ouvrant la gueule, écartant les bras, tenant à la main des torches, des fourches, des chaînes ou des javelots. Et le bleu de la mer s'étalait au fond des rues, que la perspective rendait encore plus escarpée. Un peuple tumultueux du matin au soir les emplissait. De jeunes garçons agitant des sonnettes criaient à la porte des bains. Les boutiques de boissons chaudes fumaient. L'air retentissait du tapage des enclumes. Les coqs blancs consacrés au soleil chantaient sur les terrasses. Les bœufs que l'on égorgeait mugissaient dans les temples. Des esclaves couraient avec des corbeilles sur leurs têtes. Et dans l'enfoncement des portiques, quelques prêtres apparaissaient, drapés d'un manteau sombre, nu-pieds et en bonnet pointu. Ce spectacle de Carthage irritait les barbares. Ils l'admiraient et ils l'exécraient. Ils auraient voulu tout à la fois l'anéantir et l'habiter. Mais qui avait-il dans le port militaire, défendu par une triple muraille? Puis, derrière la ville, au fond de Mégara, plus haut que l'Acropole, apparaissait le palais d'Amilcar. Les yeux de Mato à chaque instant s'y portaient. Il montait dans les oliviers et il se penchait, la main étendue au bord des sourcils. Les jardins étaient vides et la porte rouge à croix noire restait constamment fermée. Plus de 20 fois, il fit le tour des remparts, cherchant quelques brèches pour entrer. Une nuit, il se jeta dans le golfe, et pendant 3 heures, il nagea tout d'une haleine. Il arriva au bas de ma pale, il voulut grimper contre la falaise, mais il ensanglaça ses genoux, brisa ses ongles, puis retomba dans les flots et s'en revint. Son impuissance l'exaspérait. Il était jaloux de cette Carthage enfermant Salammbô comme de quelqu'un qui l'aurait possédé. Ses énervements l'abandonnèrent et ce fut une ardeur d'action folle et continuelle. La joue en feu, les yeux irrités, la voix rauque, il se promenait d'un pas rapide à travers le camp. Ou bien, assis sur le rivage, il frottait avec du sable sa grande épée. Il lançait des flèches aux vautours qui passaient. Son cœur débordait en paroles furieuses. Laisse aller ta colère comme un char qui s'emporte, disait Spendius. Crie, blasphème, ravage et tue. La douleur s'apaise avec du sang, et puisque tu ne peux assouvir ton amour aux gorges de ta haine, elle te soutiendra. Mâtho reprit le commandement de ses soldats. Il les faisait impitoyablement manœuvrer. On le respectait pour son courage, pour sa force surtout. D'ailleurs, il inspirait comme une crainte mystique. On croyait qu'il parlait la nuit à des fantômes. Les autres capitaines s'animèrent de son exemple, et l'armée bientôt se disciplina. Les Carthaginois entendaient de leur maison la fanfare des buccines qui réglaient les exercices. Enfin, les barbares se rapprochèrent. Il aurait fallu, pour les écraser dans l'isthme, que deux armées puissent les prendre à la fois par derrière, l'une débarquant au fond du golfe du Tic et la seconde à la montagne des eaux chaudes. Mais que faire avec la seule légion sacrée, grosse de 6 000 hommes tout au plus? S'ils inclinaient vers l'Orient, ils allaient se joindre aux nomades, intercepter la foule de sirènes et le commerce du désert. Et s'ils se repliaient sur l'Occident, la Numidie se soulèverait. Enfin, le manque de vivres les ferait tôt ou tard dévaster comme des sauterelles les campagnes environnantes. Les riches tremblaient pour leurs beaux châteaux, pour leurs vignobles, pour leur culture. Hannon proposa des mesures atroces et impraticables, comme de promettre une forte somme pour chaque tête de barbare, ou qu'avec des vaisseaux et des machines on incendia leur camp. Son collègue Giscon voulait au contraire qu'ils fussent payés, mais à cause de sa popularité, les anciens le détestaient, car il redoutait le hasard d'un maître et, par terreur de la monarchie, s'efforçait d'atténuer ce qui en subsistait ou la pouvait rétablir. Il y avait en dehors des fortifications des gens d'une autre race et d'une origine inconnue, tous chasseurs de porcs-épics, mangeurs de mollusques et de serpents. Ils allaient dans les cavernes prendre des hyènes vivantes, qu'ils s'amusaient à faire courir le soir sur les sables de Mégara, entre les stèles des tombeaux. Leurs cabanes de fange et de varech s'accrochaient contre la falaise comme des nids d'hirondelles. Ils vivaient là, sans gouvernement et sans dieu, pêle-mêle, complètement nus, à la fois débiles et farouches, et depuis des siècles exécrés par le peuple à cause de leurs nourritures immondes. Les sentinelles s'aperçurent un matin qu'ils étaient tous partis. Enfin, des membres du Grand Conseil se décidèrent. Ils vinrent au camp, sans collier ni ceinture, en sandales découvertes comme des voisins. Ils s'avançaient d'un pas tranquille, jetant des saluts au capitaine, ou bien ils s'arrêtaient pour parler aux soldats, disant que tout était fini et qu'on allait faire justice à leurs réclamations. Beaucoup d'entre eux voyaient pour la première fois un camp de mercenaires. Au lieu de la confusion qu'ils avaient imaginée, partout c'était un ordre et un silence effrayant. Un rempart de gazon enfermait l'armée dans une haute muraille, inébranlable au choc des catapultes. Le sol des rues était aspergé d'eau fraîche. Par les trous des tentes, ils apercevaient des prunelles fauves qui luisaient dans l'ombre. Les faisceaux de piques et les panoplies suspendues les éblouissaient comme des miroirs. Ils se parlaient à voix basse. Ils avaient peur, avec leur longue robe, de renverser quelque chose. Les soldats demandèrent des vivres en s'engageant à les payer sur l'argent qu'on leur devait. On leur envoya des bœufs, des moutons, des pintades, des fruits secs et des lupins, avec des scombres fumés, de ces scombres excellents que Carthage expédiait dans tous les ports. Mais ils tournaient dédaigneusement autour des bestiaux magnifiques, et dénigrant ce qu'ils convoitaient, offraient pour un bélier la valeur d'un pigeon, pour 3 chèvres le prix d'une grenade. Les mangeurs de choses immondes, se portant pour arbitres, affirmaient qu'on les dupait. Alors ils tiraient leurs glaives et menaçaient de tuer. Des commissaires du Grand Conseil écrivirent le nombre d'années que l'on devait à chaque soldat. Mais il était impossible maintenant de savoir combien on avait engagé de mercenaires, et les anciens furent effrayés de la somme exorbitante qu'ils auraient à payer. Il fallait vendre la réserve du Silphium, imposer les villes marchandes. Les mercenaires s'impatienteraient. Déjà Tunis était avec eux, et les riches, étourdis par les fureurs d'Amnon et les reproches de son collègue, recommandèrent aux citoyens qui pouvaient connaître quelques barbares d'aller le voir immédiatement pour reconquérir son amitié, lui dire de bonnes paroles. Cette confiance les calmerait. Des marchands, des scribes, des ouvriers de l'arsenal, des familles entières se rendirent chez les barbares. Les soldats laissaient entrer chez eux tous les Carthaginois, mais par un seul passage, tellement étroit que 4 hommes de front s'y coudoyaient. Spendius, debout contre la barrière, les faisait attentivement fouiller. Mato, en face de lui, examinait cette multitude, cherchant à retrouver quelqu'un qu'il pouvait avoir vu chez Salammbô. Le camp ressemblait à une ville tant il était rempli de monde et d'agitation. Les deux foules distinctes se mêlaient sans se confondre, l'une habillée de toile ou de laine avec des bonnets de feutre pareils à des pommes de pin, et l'autre vêtue de fer et portant des casques. Au milieu des valets et des vendeurs ambulants circulaient des femmes de toutes les nations, brunes comme des dattes mûres, verdâtres comme des olives, jaunes comme des oranges, vendues par des matelots choisis dans les bouges, volées à des caravanes prises dans le sac des villes, que l'on fatiguait d'amour tant qu'elles étaient jeunes, qu'on accablait de coups lorsqu'elles étaient vieilles, et qui mouraient dans les déroutes au bord des chemins parmi les bagages avec les bêtes de somme abandonnées. Les épouses des nomades balançaient sur leurs talons des robes en poils de dromadaire, carrées et de couleur fauve. Des musiciennes de la Cyrénaïque, enveloppées de gaze violette et les sourcils peints, chantaient accroupies sur des nattes. De vieilles négresses aux mamelles pendantes ramassaient pour faire du feu des fientes d'animal que l'on desséchait au soleil. Les Syracusaines avaient des plaques d'or dans la chevelure, les femmes des Lusitaniens des colliers de coquillages, les Gauloises des peaux de loup sur leur poitrine blanche, et des enfants robustes couverts de verbines, nus, incirconcis, donnaient aux passants des coups dans le ventre avec leur tête ou venaient par derrière comme de jeunes tigres les mordre aux mains. Les Carthaginois se promenaient à travers le camp, surpris par la quantité de choses dont ils regorgeaient. Les plus misérables étaient tristes, et les autres dissimulaient leur inquiétude. Les soldats leur frappaient sur l'épaule en les excitant à la gaieté. Dès qu'ils apercevaient quelques personnages, ils l'invitaient à leur divertissement. Quant aux jouets et aux disques, ils s'arrangeaient pour lui écraser les pieds au pugilat, dès la première passe lui fracasser la mâchoire. Les frondeurs effrayaient les Carthaginois avec leurs frondes, les psylles avec les vipères, les cavaliers avec leurs chevaux. Ces gens d'occupation paisible, à tous les outrages, baissaient la tête et s'efforçaient de sourire. Quelques-uns, pour se montrer braves, faisaient signe qu'ils voulaient devenir des soldats. On leur donnait à fendre du bois et à étriller des mulets. On les bouclait dans une armure et on les roulait comme des tonneaux par les rues du camp. Puis, quand ils se disposaient à partir, les mercenaires s'arrachaient les cheveux avec des contorsions grotesques. Mais beaucoup, par sottise ou préjugés, croyaient naïvement tous les Carthaginois très riches, et ils marchaient derrière eux en les suppliant de leur accorder quelque chose. Ils demandaient tout ce qui leur semblait beau, une bague, une ceinture, des sandales, la frange d'une robe. Et quand le Carthaginois, dépouillé, s'écriait « Mais il n'est plus rien, que veux-tu ?» Il répondait « Ta femme ?» D'autres disaient « Ta vie ?» Les comptes militaires furent remis au capitaine, l'use aux soldats définitivement approuvée. Alors ils réclamèrent des tentes. On leur donna des tentes. Puis les polémarques des Grecs demandèrent quelques-unes de ces belles armures que l'on fabriquait à Carthage. Le grand conseil vota des sommes pour cette acquisition. Mais il était juste, prétendaient les cavaliers, que la République les indemnisât de leurs chevaux. L'un affirmait en avoir perdu 3 à tel siège, un autre 5 dans telle marche, un autre 14 dans les précipices. On leur offrit des étalons d'hécatompiles. Ils aimèrent mieux l'argent. Puis ils demandèrent qu'on leur payât en argent, en pièces d'argent et non en monnaie de cuir, tout le blé qu'on leur devait, et au plus haut prix où ils s'étaient vendus pendant la guerre, si bien qu'ils exigeaient pour une mesure de farine 400 fois plus qu'ils n'avaient donné pour un sac de froment. Cette injustice exaspéra, il fallut céder pourtant. Alors les délégués des soldats et ceux du Grand Conseil se réconcilièrent, en jurant par le génie de Carthage et par les dieux des barbares. Avec les démonstrations et la verbosité orientale, ils se firent des excuses et des caresses. Puis les soldats réclamèrent, comme une preuve d'amitié, la punition des traîtres qui les avaient indisposés contre la République. On feignit de ne pas les comprendre. Ils s'expliquèrent plus nettement, disant qu'il leur fallait la tête d'Annon. Plusieurs fois par jour, ils sortaient de leur camp. Ils se promenaient au pied des murs. Ils criaient qu'on leur jetât la tête du suffète et ils tendaient leur robe pour la recevoir. Le grand conseil aurait faibli, peut-être, sans une dernière exigence plus injurieuse que les autres. Ils demandèrent en mariage pour leur chef des vierges choisies dans les grandes familles. C'était une idée de Spendius, que plusieurs trouvaient toute simple et fort exécutable. Mais cette prétention de vouloir se mêler au sang punique indigna le peuple. On leur signifia brutalement qu'ils n'avaient plus rien à recevoir. Alors ils s'écrièrent qu'on les avait trompés, et si avant 3 jours leur solde n'arrivait pas, ils iraient eux-mêmes la prendre dans Carthage. La mauvaise foi des mercenaires n'était point aussi complète que le pensaient leurs ennemis. Hamilcar leur avait fait des promesses exorbitantes, vagues il est vrai, mais solennelles et réitérées. Ils avaient pu croire, en débarquant à Carthage, qu'on leur abandonnerait la ville, qu'ils se partageraient les trésors. Et quand ils virent que leur solde à peine serait payé, ce fut une désillusion pour leur orgueil comme pour leur cupidité. Denys, Pyrrhus, Agathoclès et les généraux d'Alexandre n'avaient-ils pas fourni l'exemple de merveilleuses fortunes? L'idéal d'Hercule, que les Cananéens confondaient avec le soleil, resplendissait à l'horizon des armées. On savait que de simples soldats avaient porté les diadèmes, et le retentissement des empires qui s'écroulaient faisait rêver le Gaulois dans sa forêt de chênes, l'Éthiopien dans ses sables. Mais il y avait un peuple toujours prêt à utiliser les courages, et le voleur chassé de sa tribu, le parricide errant sur les chemins, le sacrilège poursuivi par les dieux, tous les affamés, tous les désespérés, tâchaient d'atteindre au port où le courtier de Carthage recrutait des soldats. Ordinairement, elle tenait ses promesses. Cette fois pourtant, l'ardeur de son avarice l'avait entraînée dans une infamie périlleuse. Les Numides, les Libyens, l'Afrique entière s'allaient jeter sur Carthage. La mer seule était libre. Elle y rencontrait les Romains et, comme un homme assailli par des meurtriers, elle sentait la mort tout autour d'elle. Il fallut bien recourir à Giscon. Les barbares acceptèrent son entremise. Un matin, ils virent les chaînes du port s'abaisser et trois bateaux plats, passant par le canal de la Taïnia, entrèrent dans le lac. Sur le premier, à la proue, on apercevait Giscon. Derrière lui, et plus haute qu'un catafalque, s'élevait une caisse énorme garnie d'anneaux pareils à des couronnes qui pendaient. Apparaissait ensuite la légion des interprètes, coiffés comme des sphinx et portant un perroquet tatoué sur la poitrine. Des amis et des esclaves suivaient, tous sans armes, et si nombreux qu'ils se touchaient les épaules. Les trois longues barques, pleines à sombrer, s'avançaient aux acclamations de l'armée qui les regardait. Dès que Giscon débarqua, les soldats coururent à sa rencontre. Avec des sacs, il fit dresser une sorte de tribune et déclara qu'il ne s'en irait pas avant de les avoir tous intégralement payés. Des applaudissements éclatèrent. Il fut longtemps sans pouvoir parler. Puis il blâma les torts de la République et ceux des barbares. La faute en était à quelques mutins qui, par leur violence, avaient effrayé Carthage. La meilleure preuve de ses bonnes intentions, c'était qu'on l'envoyait vers eux, lui, l'éternel adversaire du suffète Ammon. Il ne devait point supposer au peuple l'ineptie de vouloir irriter les braves, ni assez d'ingratitude pour méconnaître leur service. Et Giscon se mit à la paye des soldats, en commençant par les Libyens. Comme ils avaient déclaré les listes mensongères, il ne s'en servit point. Ils défilaient devant lui, par nation, en ouvrant leurs doigts pour dire le nombre des années. On les marquait successivement au bras gauche avec de la peinture verte. Les scribes puisaient dans le coffre béant, et d'autres, avec un stylet, faisaient des trous sur une lame de plomb. Un homme passa qui marchait lourdement à la manière des bœufs. Monte près de moi, dit le suffète, suspectant quelque fraude. Combien d'années as-tu servi ?
12 ans,
répondit le Libyen. Giscon lui glissa les doigts sous la mâchoire, car la montagnière du casque y produisait à la longue 2 callosités. On les appelait des caroubes, et avoir les caroubes était une locution pour dire un vétéran. Voleur ! S'écria le suffète. Ce qui te manque au visage, tu dois le porter sur les épaules. Et lui déchirant sa tunique, il découvrit son dos couvert de gales sanglantes. C'était un laboureur d'Hipposarite. Des huées s'élevèrent, on le décapita. Dès qu'il fut nuit, Spendius alla réveiller les Libyens. Il leur dit, « Quand les Ligures, les Grecs, les Baléares et les hommes d'Italie seront payés, ils s'en retourneront. Mais vous autres, vous resterez en Afrique, épars dans vos tribus et sans aucune défense. C'est alors que la République se vengera. Méfiez-vous du voyage. Allez-vous croire à toutes les paroles ? Les deux suffètes sont d'accord. Celui-là vous abuse. Rappelez-vous l'île des ossements Xanthippe qu'ils ont envoyé à Sparte sur une galère pourrie. Mais alors, comment nous y prendre ? Demandait-il. Réfléchissez, disait Spendius. Les 2 jours suivants se passèrent à payer les gens de Magdala, de Leptis, d'Hécatompyle. Spendius se répandait chez les Gaulois. On solde les Libyens, ensuite on paiera les Grecs, puis les Barbares, les Asiatiques et tous les autres. Mais vous, qui n'êtes pas nombreux, on ne vous donnera rien. Vous ne reverrez plus vos patries. Vous n'aurez point de vaisseaux, ils vous tueront pour épargner la nourriture. Les Gaulois vinrent trouver le suffète, Autharite, celui qui avait blessé chez Hamilcar, l'interpella. Il disparut, repoussé par les esclaves, mais en jurant qu'il se vengerait. Les réclamations, les plaintes se multiplièrent. Les plus obstinés pénétraient dans la tente du suffète. Pour l'attendrir, ils prenaient ses mains, lui faisaient palper leurs boucles sans dents, leurs bras tout maigres et les cicatrices de leurs blessures. Ceux qui n'étaient point encore payés s'irritaient. Ceux qui avaient reçu leur solde en demandaient une autre pour leurs chevaux. Et les vagabonds, les bannis, prenant les armes des soldats, affirmaient qu'on les oubliait. À chaque minute, il arrivait comme des tourbillons d'hommes. Les tentes craquaient, s'abattaient. La multitude serrée entre les remparts du camp oscillait à grands cris, depuis les portes jusqu'au centre. Quand le tumulte se faisait trop fort, Giscon posait un coude sur son sceptre d'ivoire, et regardant la mer, il restait immobile, les doigts enfoncés dans sa barbe. Souvent, Mato s'écartait pour aller s'entretenir avec Spendius. Puis il se replaçait en face du suffète, et Giscon sentait perpétuellement ses prunelles comme 2 phalariques en flammes darder vers lui. Par-dessus la foule, plusieurs fois, ils se lancèrent des injures, mais qu'ils n'entendirent pas. Cependant, la distribution continuait, le suffète, à tous les obstacles, trouvait des expédients. Les Grecs voulurent élever des chicanes sur la différence des monnaies. Il leur fournit de telles explications qu'ils se retirèrent sans murmure. Les nègres réclamèrent de ces coquilles blanches usitées par le commerce dans l'intérieur de l'Afrique. Il leur offrit d'en envoyer prendre à Carthage. Alors, comme les autres, ils acceptèrent de l'argent. mais on avait promis aux Baléares quelque chose de meilleur, à savoir des femmes. Le suffète répondit que l'on attendait pour eux toute une caravane de vierges. La route était longue, il fallait encore 6 lunes. Quand elles seraient grasses et bien frottées de benjoin, on les enverrait sur des vaisseaux dans les ports des Baléares. Tout à coup, Xarxas, beau maintenant et vigoureux, sauta comme un bateleur sur les épaules de ses amis et il cria « Es-tu réservé pour les cadavres ?» tandis qu'il montrait dans Carthage la porte de Camon. Au dernier feu du soleil, les plaques d'airain la garnissaient de haut en bas, resplendissaient. Les barbares crurent apercevoir sur elle une traînée sanglante. Chaque fois que Giscon voulait parler, leur cri recommençait. Enfin, il descendit à pas grave et s'enferma dans sa tente. Quand il en sortit au lever du soleil, ses interprètes qui couchaient en dehors ne bougèrent point. Ils se tenaient sur le dos, les yeux fixes, la langue au bord des dents et la face bleuâtre. Des mucosités blanches coulaient de leurs narines, et leurs membres étaient raides comme si le froid pendant la nuit les eût tous gelés. Chacun portait autour du cou un petit lacet de jonc. La rébellion dès lors ne s'arrêta plus. Ce meurtre des Baléares rappelé par Xarxas confirmait les défiances de Spendius. Il s'imaginait que la République cherchait toujours à les tromper. Oh, il fallait en finir. On se passerait des interprètes. Xarxas, avec une fronde autour de la tête, chantait les chansons de guerre. Autharite brandissait sa grande épée. Spendius soufflait à l'un quelques paroles, fournissait à l'autre un poignard. Les plus forts tâchaient de se payer eux-mêmes, les moins furieux demandaient que la distribution continuât. Personne maintenant ne quittait ses armes, et toutes les colères se réunissaient contre Giscon dans une haine tumultueuse. Quelques-uns montaient à ses côtés. Tant qu'ils vociféraient des injures, on les écoutait avec patience. Mais s'ils tentaient pour lui le moindre mot, ils étaient immédiatement lapidés ou, par derrière d'un coup de sabre, on leur abattait la tête. L'amoncellement des sacs était plus rouge qu'un autel. Ils devenaient terribles après le repas quand ils avaient bu du vin. C'était une joie défendue sous peine de mort dans les armées puniques, et ils levaient leur coupe du côté de Carthage par dérision pour sa discipline. Puis ils revenaient vers les esclaves des finances et ils recommençaient à tuer. Le mot frappe différemment dans chaque langue était compris de tous. Chaque Giscon savait bien que la patrie l'abandonnait, mais il ne voulait point, malgré son ingratitude, la déshonorer. Quand ils lui rappelèrent qu'on leur avait promis des vaisseaux, il jura par Moloch de leur en fournir lui-même à ses frais, et arrachant son collier de pierre bleue, il le jeta dans la foule en gage de serment. Alors les Africains réclamèrent le blé d'après les engagements du Grand Conseil. Giscon étala les comptes des Sicites, tracés avec de la peinture violette sur des peaux de brebis. Il lisait tout ce qui était entré dans Carthage, mois par mois et jour par jour. Soudain, il s'arrêta, les yeux béants, comme s'il fût découvert entre les chiffres sa sentence de mort. En effet, les anciens les avaient frauduleusement réduits, et le blé vendu dans l'époque la plus calamiteuse de la guerre se trouvait à un taux si bas qu'à moins d'aveuglement on n'y pouvait croire. Parle, crièrent-ils, plus haut, ah! C'est qu'il cherche à mentir, le lâche, méfions-nous. Pendant quelque temps, il hésita, enfin il reprit sa besogne. Les soldats, sans se douter qu'on les trompait, acceptèrent comme vrai les contes des Sicites. Alors l'abondance où s'était trouvée Carthage les jeta dans une jalousie furieuse. Ils brisèrent la caisse de Sycomore. Elle était vide aux trois quarts. Ils avaient vu de telles sommes en sortir qu'ils la jugeaient inépuisable. Giscon en avait enfoui dans sa tente. Ils escaladèrent les sacs. Mato les conduisait comme il criait « L'argent, l'argent !» Giscon à la fin répondit « Mais que votre général vous en donne !» Il les regardait en face, sans parler, avec ses grands yeux jaunes et sa longue figure plus pâle que sa barbe. Une flèche arrêtée par les plumes se tenait à son oreille dans son large anneau d'or et un filet de sang coulait de sa tiare sur son épaule. Un geste de Mato, tous s'avancèrent. Il écarta les bras. Spendius, avec un nœud coulant, l'étreignit au poignet. Un autre le renversa et il disparut dans le désordre de la foule qui s'écroulait sur les sacs. Ils saccagèrent sa tente. On y trouva que les choses indispensables à la vie. Puis, en cherchant mieux, trois images de Tanit et dans une peau de singe, une pierre noire tombée de la lune. Beaucoup de Carthaginois avaient voulu l'accompagner. C'étaient des hommes considérables et tous du parti de la guerre. On les entraîna en dehors des tentes et on les précipita dans la fosse aux immondices. Avec des chaînes de fer, ils furent attachés par le ventre à des pieux solides et on leur tendait la nourriture à la pointe d'un javelot. Otarite, tout en les surveillant, les accablait d'invectives, mais comme il ne comprenait point sa langue, il ne répondait pas. Les Gaulois, de temps en temps, leur jetaient des cailloux au visage pour les faire crier. Dès le lendemain, une sorte de langueur envahit l'armée. À présent que leur colère était finie, des inquiétudes les prenaient. Mato souffrait d'une tristesse vague. Il lui semblait avoir indirectement outragé Salammbô. Ses riches étaient comme une dépendance de sa personne. Ils s'asseyaient la nuit au bord de leur fosse et ils retrouvaient dans leurs gémissements quelque chose de la voix dont son cœur était plein. Cependant, ils accusaient tous les Libyens qui seuls étaient payés. Mais en même temps que se ravivaient les antipathies nationales avec les haines particulières, on sentait le péril de s'y abandonner. Les représailles après un attentat pareil seraient formidables. Donc il fallait prévenir la vengeance de Carthage. Les conciliabules et harangues n'en finissaient pas. Chacun parlait, on n'écoutait personne. Espanius, ordinairement si loquace, à toutes les propositions secouait la tête. Un soir, il demanda négligemment à Mato s'il n'y avait pas des sources dans l'intérieur de la ville. Pas une, répondit Mato. Le lendemain, Spendius l'entraîna sur la berge du lac. « Maître, dit l'ancien esclave, si ton cœur est intrépide, je te conduirai dans Carthage. »« Comment ? Répétait l'autre en haletant. « Jure d'exécuter tous mes ordres et de me suivre comme une ombre. » Alors Mato, levant son bras vers la planète de Chabar, s'écria « Par Tanit, je le jure. Spendius reprit. Demain, après le coucher du soleil, tu m'attendras au pied de l'aqueduc entre la 9e et la 10e arcade. Emporte avec toi un pic de fer, un casque sans aigrette et des sandales de cuir. L'aqueduc dont il parlait traversait obliquement l'isthme entier, ouvrage considérable, agrandi plus tard par les Romains. Malgré son dédain des autres peuples, Carthage leur avait pris gauchement cette invention nouvelle, comme Rome elle-même avait fait de la galère punique, et 5 rangs d'arc superposés d'une architecture trapue avec des contreforts à la base et des têtes de lion au sommet, aboutissait à la partie occidentale de l'acropole, où il s'enfonçait sous la ville pour déverser presque une rivière dans les citernes de Mégara. À l'heure convenue, Spendius y trouva Mato. Il attacha une sorte de harpon au bout d'une corde, le fit tourner rapidement comme une fronde, et l'ange à le fer s'accrocha. Et ils se mirent, l'un derrière l'autre, à grimper le long du mur. Mais quand ils furent montés sur le premier étage, le crampon, chaque fois qu'ils le jetaient, retombait. Il leur fallait, pour découvrir quelques fissures, marcher sur le bord de la corniche. À chaque rang des arcs, ils la trouvaient plus étroite. Puis la corde se relâcha et plusieurs fois elle faillit se rompre. Enfin, ils arrivèrent à la plateforme supérieure. Spendius, de temps à autre, se penchait pour tâter les pierres avec sa main. « C'est là, dit-il, commençons !» Et pesant sur les pieux qu'avait apporté Mato, ils parvinrent à disjoindre une des dalles. Ils aperçurent au loin une troupe de cavaliers galopant sur des chevaux sans bride. Leurs bracelets d'or sautaient dans les vagues draperies de leurs manteaux. On distinguait en avant un homme couronné de plumes d'autruche et qui galopait avec une lance à chaque main. « Narravas ! » s'écria Mato. « Qu'importe ! » reprit Spendius, et il sauta dans le trou qu'il venait de faire en découvrant la dalle. Mato, par son ordre, essaya de pousser un des blocs. Mais, faute de place, il ne pouvait remuer les coudes. « Nous reviendrons, dit Spendius. Mets-toi devant. » Alors ils s'aventurèrent dans le conduit des eaux. Ils en avaient jusqu'au ventre. Bientôt ils chancelèrent et il leur fallut nager. Leurs membres se heurtaient contre les parois du canal trop étroit. L'eau coulait presque immédiatement sous la dalle supérieure. Ils se déchiraient le visage. Puis le courant les entraîna. Un air plus lourd qu'un sépulcre leur écrasait la poitrine, et la tête sous les bras, les genoux l'un contre l'autre, allongés tant qu'ils pouvaient, ils passaient comme des flèches dans l'obscurité, étouffant, râlant, presque mort. Soudain tout fut noir devant eux, et la vélocité des eaux redoublait. Ils tombèrent. Quand ils furent remontés à la surface, ils se tinrent pendant quelques minutes étendus sur le dos, à humer l'air délicieusement. Des arcades, les unes derrière les autres, s'ouvraient au milieu de larges murailles séparant des bassins. Tout s'était rempli et l'eau se continuait en une seule nappe dans la longueur des citernes. Les coupoles du plafond laissaient descendre par leurs soupirails une clarté pâle qui étalait sur les ombres comme des disques de lumière et les ténèbres alentour s'épaississant vers les murs, les reculaient indéfiniment. Le moindre bruit faisait un grand écho. Spendius et Mato se remirent à nager, et passant par l'ouverture des arcs, ils traversèrent plusieurs chambres à la file. Deux autres rangs de bassins, plus petits, s'étendaient parallèlement de chaque côté. Ils se perdirent, ils tournaient, ils revenaient. Enfin, quelque chose résista sous leurs talons. C'était le pavé de la galerie qui longeait les citernes. Alors, s'avançant avec de grandes précautions, ils palpèrent la muraille pour trouver une issue. Mais leurs pieds glissaient, ils tombaient dans les vasques profondes. Ils avaient à remonter, puis ils retombaient encore. Et ils sentaient une épouvantable fatigue, comme si leurs membres en nageant se fussent dissous dans l'eau. Leurs yeux se fermèrent et ils agonisaient. Spendius frappa la main contre les barreaux d'une grille. Ils la secouèrent, elle céda, et ils se trouvèrent sur les marches d'un escalier. Une porte de bronze le fermait en haut. Avec la pointe d'un poignard, ils écartèrent la barre que l'on ouvrait en dehors. Tout à coup, le grand air pur les enveloppa. La nuit était pleine de silence et le ciel avait une hauteur démesurée. Des bouquets d'arbres débordaient sur les longues lignes des murs. La ville entière dormait. Les feux des avant-postes brillaient comme des étoiles perdues. Spendius, qui avait passé 3 ans dans l'ergastule, connaissait imparfaitement les quartiers. Mato conjectura que, pour se rendre au palais d'Amilcar, il devait prendre sur la gauche en traversant les Mappales. « Non, dit Spendius, conduis-moi au temple de Tanit. » Mato voulut parler. « Rappelle-toi, dit l'ancien esclave. » Et levant son bras, il lui montra la planète de Chabar qui resplendissait. Alors Mato se tourna silencieusement vers l'acropole. Il rampait le long des clôtures de Mopale qui bordaient les sentiers. L'eau coulait de leurs membres sur la poussière. Leurs sandales humides ne faisaient aucun bruit. Spendius, avec ses yeux plus flamboyants que des torches, à chaque pas fouillait les buissons. Et il marchait derrière Mato, les mains posées sur les deux poignards qu'il portait au bras, tenus au-dessous de l'aisselle par un cercle de cuir.